Dis-moi, t'aimerais faire quoi quand tu seras plus grande ? Moi, quand je serai grande, je serai... Et toi ? Quand je serai grande, un podcast RLP par Hélène Grillon. Bonjour les amis, c'est Hélène Grillon. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une volcanologue intrépide et avant-gardiste dont la passion pour les sommets explosifs a marqué l'histoire des sciences. Précisons que nous étions à une époque où peu de femmes travaillaient dans le domaine. Aux côtés de son mari, elle a exploré certains des cratères les plus dangereux du monde pour immortaliser des images spectaculaires et collecter des données cruciales sur ces phénomènes naturels fascinants. Son travail a permis de mieux comprendre les éruptions volcaniques et a contribué à sauver des vies en prévenant les catastrophes naturelles. Reconnue pour son engagement sans faille envers la recherche et la sensibilisation, elle a inspiré des générations de scientifiques et d'exploratrices après elle. C'est lors d'une éruption volcanique au Japon en 1991 qu'elle et son mari perdent la vie. Pourtant, son héritage continue de porter tous ceux et celles qui osent explorer les mystères de notre planète. Bref, sans plus attendre, partons ensemble à la rencontre de cette figure légendaire dont l'intrépidité et la détermination continuent d'inspirer les plus braves aventuriers. J'ai nommé Katia Kraft. Tout commence dans la vallée du Rhin, entre Colmar et Mulhouse, dans la petite ville de Guebwiller-Sulz, où vivent Charles et Madeleine Conrad. Lui est ouvrier et elle, institutrice. Le 17 avril 1942, ils accueillent une petite fille que Madeleine aimerait appeler Katia. Mais à l'acmé de la Seconde Guerre mondiale, un prénom qui sonne allemand ne semble pas un choix très sûr. Alors sur les papiers officiels, Katia sera Catherine. Katia est une petite fille très curieuse et surtout casse-cou, ce qui inquiète un peu sa mère. Elle aimerait beaucoup que sa fille devienne institutrice comme elle. Alors dans l'espoir de lui apprendre un peu de discipline, Madeleine décide d'envoyer Katia dans un couvent chez les bonnes sœurs. Une idée qui a en réalité l'effet inverse, puisque Katia finit son séjour en étant plus convaincue que jamais. Ce qu'elle veut, c'est un esprit libre et plein de connaissances. Quelques temps plus tard, quand elle n'est encore qu'ado, elle annonce à ses parents ses deux choix de carrière possibles. Elle deviendra soit volcanologue, soit autrice de romans policiers. Autant vous dire qu'après le coup des bonnes sœurs, sa famille est plutôt dubitative. Mais cela ne les empêche pas d'offrir à leur fille pour ses 18 ans un voyage pour découvrir l'Etna. Katia est folle de joie. Elle passe toute la semaine à ramasser des fragments de roches volcaniques et elle s'éclate. Ce sont sans aucun doute les meilleures vacances de sa vie. Finalement, ce ne sera pas auteur de polar. Lorsqu'elle revient en Alsace, elle est gonflée de rêves et ne tient plus en place. Un jour, son père découvre même qu'elle fait le mur tous les soirs en douce pour participer à une roue de la mort en moto. C'en est trop, puisque c'est ainsi, les parents de Katia lui proposent un marché. Si elle se tient à carreau et qu'elle fait des études considérées de fille, elle sera ensuite libre de choisir sa voie. La jeune fille accepte et devient institutrice pour faire plaisir à sa mère. Elle enchaîne alors différents postes dans l'éducation, prof de maths, de sciences, et elle passe finalement une maîtrise de chimie. Elle réussit brillamment, alors ses parents acceptent qu'elle poursuive des études pour devenir volcanologue. Katia travaille dur et avec rigueur jusqu'à obtenir son premier stage au CNRS. Le Graal, parce que c'est une grande fierté pour elle qui a hâte de vivre de sa passion. On dit souvent que si l'on choisit de faire quelque chose que l'on aime et qui nous nourrit, on aura plus de chances pour réussir. Et cette phrase a sûrement été inventée pour Katia. Parce qu'à seulement 20 ans, elle reçoit le prix de la vocation qui lui est remis par le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas. Cassia se plaît beaucoup à l'université où elle peut enfin apprendre avec plaisir. Elle se fait des amis, mais un seul est aussi passionné qu'elle. À l'époque, personne ne s'intéresse aux volcans, alors c'est plaisant de faire la connaissance de quelqu'un qui partage ce même intérêt. Ce monsieur, c'est un certain Maurice Kraft. Pour l'anecdote, Katia participe à un blind date arrangé par ses amis pour rencontrer cet autre étudiant qui adore parler de volcanologie. Et comme elle, il a un fort accent d'Alsace. C'est l'une de ces rencontres fortes qui change une vie. Tous deux sont fous amoureux et décident alors de s'unir en 1970. Sans surprise, ils partent à l'aventure lors de leur voyage de noces pour faire des prélèvements autour des sommets. Leur maison devient même leur grand laboratoire de recherche et d'expérimentation. Dès qu'une éruption est signalée, le couple s'empresse de chercher des financements auprès des institutions et des musées, voire même en demander à leurs parents pour partir en expédition au plus vite. Ils ont même trouvé un nom à leur duo de nerd, Vulcain. Katia est d'ailleurs plutôt forte pour convaincre les élus de soutenir leurs recherches, entre autres grâce à son look de bonne élève. Pour Vulcain, le quotidien est rythmé de cette façon. Trouver des financements, partir à l'improviste pour couvrir sous tous les angles les éruptions des volcans du monde entier, puis rentrer pour partager tout cela avec la communauté scientifique et le public. Lors d'un voyage en Islande, ils sont témoins de l'éruption de l'Eldfell qui emprisonne un village entier sous la cendre. À leur retour en France, ils alertent les autorités sur la catastrophe qui vient de se produire. Les Kraft sont convaincus qu'il existe des moyens pour éviter ce type de drame. Ils décident alors de réunir des fonds pour venir en aide aux habitants. Ce sont, à l'époque, 12 000 francs récoltés. De quoi permettre au gouvernement islandais d'agir sur place. Entre sang-froid et conditions extrêmes à l'approche des sommets explosifs et du danger, les Kraft continuent d'éprouver une passion communicative pour leur métier. Quel bonheur pour Katia de vivre son rêve d'enfant avec la seule personne au monde qui la comprenne. Lorsqu'ils sont en expédition aux quatre coins du monde, chacun sait ce qu'il a à faire. Maurice observe et note tout dans des carnets, tandis que Katia, armée de sa caméra, filme des images et prend quelques prélèvements à ramener chez eux. Quand Katia est en voyage pour des recherches, elle se sent pleinement dans son élément. Pour ce qui a à voir avec les financements, elle laisse beaucoup Maurice prendre en charge cette partie. Katia, en fait, elle est plutôt de nature réservée, et plus la vie passe, moins elle apprécie les mondanités. Ce qu'elle aime, c'est la vie au grand air, près des volcans qui la fascinent tant. Si le côté administratif n'est pas son fort, elle tient néanmoins à répondre aux lettres qu'elle reçoit de la part des enfants du monde entier. Rien ne lui fait plus plaisir que de parler de sa passion et de la transmettre aux générations futures. Les Kraft se sont lancés avec peu de moyens et beaucoup de détermination pour récolter une immense collection de photos, de roches et de vidéos comme jamais la communauté scientifique n'en avait vu auparavant sur les volcans. Katia tient absolument à rendre son petit musée accessible à tout le monde. Ensemble, ils animent des conférences pour sensibiliser au risque du volcanisme et produisent un large nombre de documentaires. Dans l'un d'eux, on aperçoit Katia s'approcher calmement d'une fontaine de lave incandescente. Avec son petit chapeau rouge, elle met le bras devant son visage pour se protéger de la chaleur intense. En regardant les images, on peut presque sentir toute la beauté et la dangerosité de ces phénomènes naturels fascinants. Parmi les projets que Katia a en tête, il y a celui de la maison du volcan, en bordure du piton de la Fournaise, à La Réunion. C'était l'après-guerre, avec de grandes avancées scientifiques. En 1967, on découvre les plaques tectoniques, ce qui permet d'en apprendre plus sur les tremblements de terre et la formation des volcans. Mais même si la connaissance avance, Katia déplore le manque, voire l'absence de moyens dans les zones à risque pour limiter les dangers liés aux cratères. Le déclic survient après deux incidents. Tout d'abord, en 1980, après l'éruption du mont Saint-Hélens, qui fait 57 morts aux États-Unis. Seulement 5 ans après, l'éruption du Nevado del Ruiz entraîne la mort de plus de 20 000 personnes. Les Kraft sont fous de rage. Tous ces morts auraient pu être épargnés si les autorités avaient agi en amont. Désormais, pour empêcher ce genre de catastrophe, Katia réalise des films à visée pédagogique pour les populations qui habitent aux alentours des volcans, des sortes d'outils et de guides de survie. Les films, dont la diffusion et production est soutenue par l'UNESCO, permettent sans aucun doute de sauver des milliers de vies. À part un volcan situé en URSS et donc interdit d'accès, Katia et son mari se sont rendus au cœur de plus de 170 éruptions. Tout le chaos du monde humain a poussé les Kraft à trouver un peu de réconfort dans la grandeur de la nature. Et ils le disent eux-mêmes, car Maurice explique un jour « Nous étions déçus par l'humanité. Les volcans sont plus grands que les hommes. Nous avons eu le sentiment que c'était ce dont nous avions besoin. » Quelque chose qui dépasse l'entendement. Eux qui avaient pour habitude de côtoyer les feux les plus impressionnants de la planète se retrouvent emportés par une coulée pyroclastique le 3 juin 1991 sur le mont Hanzen au Japon. On dit de ces passionnés qu'ils étaient attirés par les volcans comme les papillons par la lumière. Toujours s'approcher au plus près, quitte à sereinement en perdre la vie, à tout moment. C'était leur façon de vivre leur existence car ils le disaient eux-mêmes, le jeu en vaut la chandelle. Katia est à l'origine d'une bonne partie de la documentation dont dispose aujourd'hui encore la communauté scientifique. Grâce à cela, de nombreux mystères qui entourent les volcans ont pu trouver des réponses. Même si Maurice était considéré comme plus médiatisé que Katia, c'est l'occasion de rappeler qu'un métier, ce n'est pas une question de genre. L'influence de Katia sur la volcanologie ne s'est pas arrêtée à sa mort et a incité de nombreuses jeunes femmes à étudier les tourments de notre planète. Aujourd'hui, 39% des 937 membres de l'Association internationale de volcanologie sont des femmes. Et pour la première fois de son histoire, une femme est présidente. Car avant, 22 hommes ont été présidents de cette association. Grâce aux images de Katia, sur le terrain et à sa passion débordante, elle a sans aucun doute motivé un bon nombre de géologues en herbe. En somme, cette jeune fille casse-cou pleine de rêves et de passion a trouvé ce qu'elle voulait faire quand elle serait grande. Voilà, rien que ça! Je vous remercie à toutes et tous d'avoir écouté ces quelques minutes passées en compagnie de la vaillante Katia Kraft. J'espère que cela vous a plu. C'est le moment de conclure cet épisode, mais pas de tristesse car je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec l'une des journalistes d'investigation les plus audacieuses du 19e siècle. Connue pour ses reportages percutants et son engagement en faveur de la justice sociale, elle a enquêté sur de nombreux sujets tabous pour son époque. Elle a notamment feint la folie pour exposer les horreurs des asiles psychiatriques, réalisant ainsi l'un des premiers scoops journalistiques sous couverture. Mais ce n'est pas tout, car son célèbre tour du monde en 72 jours a non seulement démontré son courage et sa détermination, mais est significatif car premier tour du monde par une femme sans être accompagnée d'un homme. Bref, un rendez-vous qui promet une rencontre passionnante. Alors en attendant de nous retrouver, restez curieuses et curieux. À bientôt sur RLP.